Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Pierre Faucillon. Porter son regard cette semaine sur l'œuvre de la psychanalyste et docteur en sociologie Françoise Davoine, auteur avec Jean-Max Godillière de l'ouvrage magistral « Histoire et trauma, la folie des guerres », mais aussi toute seule de l'essai « Don Quichotte pour combattre la mélancolie ». C'est seulement par le poème que peuvent être pensées les blessures incurables de l'histoire, pense Davoine. Nous n'éprouverons sans doute pas le sujet au cours de l'émission. En revanche, il sera bien question du loustic combattant les moulins à vent de blessures de l'histoire et de littérature. Écrivain ayant également longtemps exercé le métier de pédopsychiatre, notre invitée estime que l'écriture ne panse pas les plaies, mais les maintient à vif. Elle grandit dans une colonie de réfugiés espagnols. Ses parents républicains se sont exilés à Haute-Rive, près de Toulouse, suite à la guerre civile espagnole, ce qui l'a fait grandir, comme elle le dit, dans une Espagne en France. Le français n'est donc pas sa langue maternelle, et c'est par la littérature qu'elle se familiarise avec lui. Ça marche plutôt bien. L'œuvre de la lauréate du prix Goncourt 2014 est impressionnante. Ses deux derniers ouvrages parus respectivement chez Stock et Au Seuil sont Marchés jusqu'au soir et Rêver debout, et d'ailleurs j'en annonce un troisième, Famille, chez Tristram. L'embellie.
Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Lydie Zalver.
Bonjour.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Oui.
Sans hésitation ?
Aucune.
Et ça a toujours été le cas ?
Non.
Donc ça peut progresser, vous nous donnez de l'espoir.
Mais bien sûr.
À quel prix ?
Eh bien, convertir par exemple ces douleurs en littérature.
Ou en d'autres recettes. Ou en d'autres actions. Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Alors ça dépend des saisons. Quand je suis immergée dans un roman, je m'endors avec lui. Je dors avec lui, il me réveille, il m'occupe toute la journée, il me tyrannise contre ma volonté. Il me fait faire des choses éhontées parce que je peux mentir à mes amis les plus chers pour lui consacrer du temps, par exemple. Bref...
C'est un amant.
Mais exactement, c'est comme une chose amoureuse. Cette période-là, qui est d'un amant qui serait presque persécuteur. Délicieusement persécuteur. Puis il y a un jour où ça s'arrête. Enfin, non, il y a plutôt un jour où on est là d'avoir une armée d'occupation dans sa tête et on finit par souhaiter que ça s'arrête. Et donc il faut finir de toute urgence le livre qu'on est en train d'écrire.
Justement, c'est ce qui vous donne envie de vous lever, Lydie Salvert, l'idée de retrouver le livre que vous êtes en train d'écrire. Et vous ajoutez, ça fait faux et poseur, mais c'est vrai. Non, ça ne fait pas faux et poseur. C'est un rendez-vous avec vous-même. On devrait tous passer du temps avec soi si on en était capable.
Mais en même temps, le dire est un peu gênant, je trouve. Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que vous redoutez parfois de retrouver ce livre ?
Je ne relis jamais les anciens, vous voulez dire ?
Non, quand vous avez rendez-vous...
Rendez-vous, non.
Jamais ?
Non, franchement, non. Non, il est si pressant que j'ai dit tout à l'heure qu'il me réveillait. Et c'est vrai que les périodes où j'écris sont des périodes où je me réveille avant l'heure à laquelle je me réveille d'habitude. C'est le désir, j'imagine, de revenir au livre. Non, mais vraiment.
Vous arrive-t-il de rien écrire entre deux livres, de laisser passer du temps ?
Mais bien sûr, c'est une horreur. Non, j'exagère. Mais on est tout de suite harcelé par l'idée que ça ne reviendra plus. Que la persécution n'aura plus lieu. Et qu'on va passer du temps à l'attendre, je ne sais jusqu'à quand, bien sûr.
Comme une histoire d'amour, exactement.
Mais exactement, puisque ça n'est pas garanti comme une histoire d'amour.
Votre engagement est dans votre écriture, Lydie Salvert, et vous dites à nouveau platitude s'il en est, mais encore une fois, c'est vrai. Moi, je vous crois. C'est une façon de vous approprier le réel, d'écrire. Je pense à Pas pleurer, avec oui. cette alternance entre Bernanos et votre mère, à l'histoire dans la compagnie c'est... des spectres.
Oui, et de m'en éloigner, de prendre mes distances vis-à-vis de lui, ça aussi c'est une platitude choc, et de le retrouver, bien sûr. Ces deux choses en même temps. Un refuge, une fuite.
Et une façon aussi d'habiter le monde. Là, je pense à Tout homme est une nuit, dans lequel un jeune homme apprend qu'il a un cancer et décide de se mettre en retrait du monde dans un village. Et en fait, on parle de politique puisque ça alterne entre sa voix à lui avec une langue absolument sublime et puis les villageois qui, hélas, ont des propos quand même assez racistes et limités. Et ça, c'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, c'était les élections de 2017.
Écoutez, je vous l'ai dit avant de commencer, je n'aime pas ce livre parce que je l'ai écrit pendant une période où j'étais soignée pour une chimio et... Tout ce qui touche à ce livre me fait me reculer de lui. C'est très étrange. Pardon de commencer l'émission en vous disant
non,
ça.
Non, c'est très honnête.
Mais j'en ai oublié la trame
oui.
pour tout vous dire plus ou moins.
Alors, c'est pas grave, je vais passer à la question suivante et je vais changer de livre. Dans Marcher jusqu'au soir, Lydie Salvert, oui, vous dites « Tout ce qui n'est pas littérature t'indiffère, tout ce qui n'est pas littérature t'ennuie mortellement. » C'est vrai ?
Oui.
Vous plaidez coupable.
Je suis un peu monomaniaque, non mais c'est vrai, je suis un peu monomaniaque.
Combien de temps vous passez sur chaque livre à peu près ?
Ben, ça dépend. Rêver debout, par je ne sais quel miracle, c'est écrit très vite et très aisément. Je ne sais pas, j'ai peut-être mis un mois pour l'écrire, à peine. D'autres sont plus besogneux, et notamment ceux qui me demandent de faire des recherches, comme la Compagnie des Spectres, où j'ai enquêté sur la collaboration, sur Pétain, etc., qui prennent plus de temps, qui sont plus compliqués à écrire, ou moins désirés, je ne sais pas.
Dans un instant, on va aborder pas mal de sujets. Il sera entre autres question d'écriture de Sancho Panza, de Goya, de Charlie Haddon, de Nietzsche, de Faulkner, d'Hölderlin, de mayonnaise et de quelques bonus. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? La petite fille téléguide. Un vol des tourneaux, ça te plaît? Assoiffé de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Du paysage, dis-moi que reste-t-il. qu'un cookie. Les navigateurs veulent mieux se connaître. C'est le coucou. Oh, qu'un cookie. Les navigateurs sont à la fenêtre. C'est le coucou. Oh, qu'un cookie.
Chatterton, cristaux liquides, dans l'embellie sur France Inter, nous sommes avec Lydie Salvert. À la question « Qu'aimeriez-vous changer dans la société ?» Lydie Salvert, vous avez cette réponse. Vous voulez dire si j'étais Don Quichotte ? Eh bien, si j'étais Don Quichotte et si je faisais fermer sa gueule à Sancho Panza, j'irais menacer Poutine de ma lance pour le contraindre à arrêter la guerre. Et d'ailleurs, dans la Compagnie des Spectres, il y a cette phrase « Nul n'est puissant, dit maman, s'il n'empêche la parole de l'autre par quelque moyen que ce soit. » Ça revient souvent, le silence et la parole dans vos livres.
Oui, si. Justement, ce que j'aime dans le Quichotte, c'est qu'il ne s'en tient pas aux belles intentions. Il se méfie des incantations, des grandes pensées dans une chambre qui ne s'appliquent pas dans la vie. C'est ça qui m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre quelles sont vos belles intentions. Je me méfie beaucoup des grandes envolées lyriques qui sont sans résonance dans notre vie de chaque jour. Et ce que fait Don Quichotte, c'est qu'il rompt ce régime de la belle intention, de la belle idée en chambre, de la belle intention.
Il va l'éprouver.
Il l'éprouve dans le réel. Il dit ça suffit.
Tout en étant lyrique.
Bien sûr. Ça doit être possible, je me dis.
Dans Rêver debout, l'un de vos livres, Lydie Salvert, vous adressez des lettres à l'auteur de Don Quichotte, Cervantes, et vous dites cette phrase « Votre livre simplement m'éclaire sur mon actualité et me révèle que cette violence monstrueuse que vous nous jetez à la gueule s'est continuée jusqu'à nos jours. »
Oui, alors c'est pas la même, évidemment. Du temps de Cervantes et de Philippe II, ce sont les autodafés, c'est l'Inquisition qui envoie au bûcher les blasphémateurs, les sorcières, les nouveaux convertis, les maranes, etc. C'est une autre violence aujourd'hui, c'est une violence économique aujourd'hui, par exemple, qu'on ressent à tous les niveaux. Et puis, nous parlerons, je crois, plus tard du ressentiment.
On va en parler.
Ce maudit ressentiment.
Avec ce fameux Nietzsche qui revient si souvent. J'imagine que ce qui vous plaît aussi chez Cervantes, Lydie Salvert, c'est le mélange de langues classiques et baroques. Enfin,
c'est délicieux.
On retrouve ça aussi chez vous.
Mais c'est délicieux. Il y a Don Quichotte avec la langue la plus huppée, la plus poétique, la plus lyrique qui soit. Et à côté, la langue de Sancho, qui est savoureuse, populaire, qui est truffée de proverbes et de blagounettes d'un goût plus ou moins douteux. Et j'adore ça, c'est très espagnol.
Et vous faites ces mélanges régulièrement dans vos livres?
J'essaie de justement qu'il n'y ait pas ce divorce qu'il y a souvent dans la littérature française, ou qu'il y a eu souvent, c'est en train de changer, entre la belle langue, la langue classique, le bien dire parfait, et la culture populaire. Elles étaient souvent... la culture populaire était souvent chassée, maltraitée, je trouve. Mais là, je trouve que la nouvelle génération rend compte un peu plus de cette culture populaire. Elle en a moins honte, me semble-t-il.
Dans la méthode Mila, il y a Descartes, il y a Pascal dans La puissance des mouches.
Oui.
Vous vous adressez souvent aux écrivains morts. Vous vivez en compagnie des spectres, justement.
Mais peut-être parce que je me suis dit très tôt que ce magnifique héritage littéraire n'était pas seulement pour les héritiers. que je n'étais pas héritière, mais que j'y avais droit, comme les héritiers, à cet héritage-là. Et très vite, je me suis délectée des écrivains classiques et de Pascal, magnifique Pascal.
Ouais.
Magnifique Pascal.
La suite pour piano Goyescas d'Enrique Granados, le morceau El Fandango de Candil, Fandango à la chandelle, interprété par Alicia de la Rocha au piano. Parmi les artistes qui vous ont aidé à faire face au monde, Lydie Salver, il y a Francisco de Goya pour avoir peint les désastres de la guerre. Donc c'est une série de 82 gravures réalisées entre 1810 et 1815, sous-titrées Les conséquences dramatiques de la sanglante guerre menée en Espagne avec Bonaparte et autres caprices emphatiques. Bon, je ne dis pas tout. Cadavre, viol, misère et oui, fantastique dans
oui,
ces gravures.
Oui, oui, oui. Mais peut-être plus encore que les désastres de la guerre, j'aime El Perro Hundido.
Le chien englouti.
Le chien englouti ou semi-englouti, dans lequel je crois voir quelque chose de notre condition à tous, c'est-à-dire l'isolement, la solitude la plus grande. Hein. C'est un chien dans un décor absolument désolé. Et dont on ne sait pas s'il se noie ou s'il nage, qui est à la fois, qui est comme nous, vulnérable, peut-être perdu, mais vivant. Bref, qu'on peut interpréter de mille manières, et je crois que c'est la toile que je préfère au monde. Et quand je l'ai vue au Prado, je suis restée, mais comment vous dire, mais émerveillée. Enfin, c'est pas le mot, mais très très impressionnée par cette peinture.
Vous évoquez Goya dans Marcher jusqu'au soir, vous évoquez ses peintures noires, comme
oui, oui,
dont fait partie justement
oui,
El Perro Hundido.
Oui, il était sur ses murs.
Et vous êtes atterré dans Marcher jusqu'au soir par un troupeau visiteur du musée qui n'a aucune émotion devant les tableaux qu'il regarde. Et vous vous dites, mais on ne les verra pas hurler leur angoisse devant ce tableau.
Oui, je m'en prends un peu à ces visites guidées, vous savez comment on les fait dans les musées, j'ai dû peut-être en faire moi-même, où on reste quelques secondes devant une toile, avec l'impression qu'on a fait sa provision.
Oui, on la consomme.
Voilà, sa provision de culturelle, et on repart aussi, on repart comme on était entré. Je pense qu'il faut du temps, pour s'approprier les choses un peu, enfin pour les faire vivre en soi, pour pas avoir peur d'elles d'abord. Hein, moi souvent la beauté me fait me reculer. Et d'ailleurs, c'était pas évident de me rapprocher du Don Quichotte. C'est un monument, ça fait peur.
Oui.
Et il va falloir prendre le risque de le lire et prendre le risque de l'aimer, puisque c'est un risque aussi, cette chose. Pour dire des choses profondes.
Oui, vous y arrivez très très bien, Lydie Salver. El Quinto Regimiento sur l'album de 1970, Charlie Aden, Libération Music Orchestra, le 5e régiment du nom d'un corps militaire républicain espagnol issu des milices antifascistes, ouvrières et paysannes. Lydie Salver, vous avez choisi de nous parler du contrebassiste américain, compositeur et chef d'orchestre Charlie Aden, de son groupe Libération Music Orchestra. Je parle énormément pour vous donner le temps de vous remettre car vous êtes très ému parce qu'ils ont repris les chants de la guerre d'Espagne
oui,
que votre mère chantait
mais
lorsque vous étiez enfant
mais
et qui
sûr,
vous bouleverse.
Mais toujours autant. Toujours autant.
Vous avez, alors je vais essayer de meubler, Charlie Haden, un artiste très engagé, Libération Musique Orchestra aussi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ça où on parle
Est-ce
de...
que je peux dire Mais je me dis que pour donner une note de gai à la chose, je veux me faire enterrer sur cette musique.
Ah oui,
ça va jusque
en effet.
Là. Ça va jusque là.
C'est très élégant de se faire enterrer sur cette musique.
Très.
Beaucoup de panache.
Très.
Alors la guerre, on en parle beaucoup dans cette émission. Il en est question dans certains de vos livres. De guerre, il en est aussi question par votre histoire personnelle dans La puissance des mouches, Lydie Salvert.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour moi, La puissance des mouches, c'est tellement autour de la figure de Pascal, qui a été si importante pour moi, si importante pour moi, juste parce qu'il a dit deux ou trois choses que je trouve magnifiques. Il a dit que toute la grandeur de l'homme vient de ce qu'il se reconnaît comme misérable. Et il a dit surtout de ne pouvoir guérir de la mort, de la misère et de l'ignorance, les hommes se sont avisés pour être heureux de n'y point penser. Et ils ont inventé le divertissement pour ne plus penser à leurs conditions de mortels, misérables, etc. Que Debord reprendra quelques années après, enfin quelques siècles après, et que la Boétie annonce déjà dans son discours de la servitude volontaire, il dit « Ce sont les jeux, le tyran donne des jeux au peuple. » Pour, quel terme use-t-il ? Pour l'avachir, il dit « Pour l'avachir, pour l'avachir. » Pour qu'il perde le goût de la liberté.
Mais donc, la liberté qui revient souvent dans votre œuvre, Lydie Salvert, le divertissement, vous n'êtes pas contre, car il est condamné dans les deux œuvres que vous me citez.
Bien sûr.
Vous en jouissez aussi du divertissement.
Mais comme tout le monde. Comme tout le monde, je le consomme, j'en jouis, mais ce qui ne m'empêche pas de voir qu'il a cette fonction souvent de
lénifiante.
Oui, de nous empêcher de penser à notre petitesse, à notre néant, à notre finitude, etc.
Oui, mais est-ce qu'il faudrait passer une vie à y penser ?
Non, mais il ne faudrait pas penser une vie à être dans le déni de cette chose aussi. Voilà, d'avoir une petite lucidité de temps en temps sur les choses. Une embellie sur les choses.
C'est temporaire, une embellie, vous savez.
Oui.
Rampe l'unique objet de mon ressentiment. Rampe à qui vient ton bras d'immoler mon amant.
Henri Salvador reprend la tirade de Camus dans la tragédie Horace de Pierre Corneille, dans le titre Horace Rock en 1961, une pépite dénichée par Juliette Gou pour illustrer le ressentiment.
C'est génial.
Et celui qui vous en a gardé, Lydie Salvert, Nietzsche,
oui.
Qui en parle notamment dans Généalogie de la morale.
Absolument. Oui, parce que je dis qu'il m'en a gardé parce que tout dans mon enfance... mon appartenance sociale, etc., aurait pu me faire tomber dans le ressentiment, c'est-à-dire la rancœur, l'amertume, l'envie, le sentiment de l'injustice, à juste titre sans doute, mais la faiblesse du ressentiment, ou sa force, comme on voudra, c'est son impuissance. Elle se repaît elle se rumine inlassablement, elle se cultive inlassablement, elle se délecte de son impuissance et elle n'arrive pas à se convertir en création d'œuvres ou de gestes. Et voilà pourquoi ça a été si important pour moi de lire Nietzsche et ce qu'il disait sur le ressentiment, bien sûr. Et j'y suis toujours sensible parce que j'ai le sentiment que ce ressentiment est très présent sur les fameux réseaux sociaux.
Oui.
Et qu'il est instrumentalisé par les populistes de tous bords, qui simplifient les points de vue et qui cultivent cette amertume impuissante à des fins bassement politiques.
Oui, Nietzsche parle de la rancune des faibles et du fait qu'on accuse toujours l'autre d'aller mal. Il y a un livre formidable de Cynthia Fleury,
Sigil
amer sur le ressentiment.
Oui, bien sûr. Alors qu'il y ait des torts, c'est certain. Mais plutôt affirmer face au tort, ce qu'on va faire pour ne plus le subir.
Être dans l'action.
Plutôt.
Plutôt que dans le ressassement, dans, ou la rumination.
Bien sûr.
Cheveux gris, moustache de même, confortable tweed renforcé au coude par Dudin, pipe à la Simenon, tel est William Faulkner, écrivain américain et fermier, mais fermier qui a su intéresser ses serviteurs noirs au profit de sa terre. William Faulkner naîtra-t-il de ce séjour en France un nouveau roman ?
Non, je me virai pas assez longtemps pour finir ce que je veux écrire sur mon propre pays.
Voulez-vous que nous parlions un peu de votre œuvre ? Y a-t-il un roman que vous préférez aux autres ?
Oui, c'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite. La Brute et la Führer.
Interview de 1955 de William Faulkner sur la RTF. Le nom du journaliste n'est hélas pas précisé. Faulkner avait préparé ses réponses car il tenait à s'exprimer en français. Il est l'auteur d'une phrase qui compte beaucoup pour vous, Lydie Salvert.
Oui.
Est-ce que vous la connaissez par cœur ou est-ce que je la lis?
Je préfère que vous la lisiez. D'accord. J'aimerais pas la défigurer.
Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit en pleine forêt. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a de l'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre.
Oui, à dire la part nocturne, à dire la part mauvaise aussi, à dire notre part de destruction, de laideur, de haine aussi, aussi. Mais il y a cette allumette dans la nuit, cet éclair qu'elle peut faire, qu'elle peut produire. Je crois que c'est Deleuze qui disait la même chose de la pensée. Il disait c'est chuter dans un chaos pour avoir une étincelle d'une seconde. Et je vous disais tout à l'heure que c'était la définition de l'embellie. C'est une étincelle dans l'orage, dans la tempête, qui éclaire un peu ce qui se passe autour, la part de nuit qu'il y a autour. Et c'est très impressionnant pour moi. Et je me dis que la littérature a entre autres vocation de prendre en charge tout ce négatif que les autres délaissent, effarouchés justement par ce négatif qui est en les hommes. Et mais dire la beauté aussi, évidemment. Et dire l'étincelle et dire l'embellie. Mais pas l'une sans l'autre.
Nous avons ri tout à l'heure en antenne puisque je vous racontais que William Faulkner n'avait pas fait grand-chose pendant la guerre, mais avait passé son temps à fanfaronner sur ses exploits. Parce que l'armistice a été déclaré avant même qu'il n'ait effectué son premier vol. Donc bon, c'était assez rigolo.
The sky is breaking open. We keep hoping. In the distance, we see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold. Beneath the poison.
venez d'entendre The Lightning d'Arcade Fire. Nous sommes toujours en compagnie de Lydie Salver.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Lied de Brahms, chant du destin, créé en 1871 et interprété ici par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado en 1994, œuvre inspirée d'un poème en trois strophes que Brahms avait lu dans le livre Hyperion du poète romantique allemand Hölderlin. Mmh. Et on a fait ça pour introduire un autre poème d'Hölderlin écrit vers 1800, Courage de poète, affectionné et analysé dans un livre par Walter Benjamin, qui dit à un moment, il y a ce vers que vous vous récitez chaque fois que vous êtes confronté à une situation critique. Lydie Salver, c'est ce que vous dites dans Marcher jusqu'au soir, va, avance, désarmé.
Oui, oui.
C'est pas la première chose qu'on aurait tendance à faire, justement, quand on est face à une situation critique.
Mais c'est-à-dire que pour rencontrer l'autre, il me semble qu'il vaut mieux laisser tomber ses armes.
Oui.
Et avancer le visage nu, pour courir le risque de rejoindre l'autre, sinon le rencontrer. Il me semble que c'est la seule condition. Et puis, c'était aussi une façon de dire que la littérature, si elle armait, elle armait autrement que par les armes. Et je me redis souvent, je repense souvent à cet épisode de Primo Levi. Il est à Auschwitz. Il n'est plus un homme. Il est un déchet. Il est rien. Il est moins que rien. Il n'a plus rien d'humain. Et tout d'un coup, il se souvient d'un tercet du chant 26 de l'Enfer, qui dit quelque chose comme nous ne méritons pas d'être traités comme bêtes, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le tercet. Et il le dit à un autre. Et pendant ce court moment où ils invoquent Dante, ils se sentent tous les deux redevenir des hommes. Et je me dis, si la littérature sert, j'ose même pas dire sert, mais à cette fonction, voilà, ça suffit, peut-être.
Lydie Salver, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce poème, Courage de poète, qui est, je l'ai lu, une ode à la joie en toutes circonstances.
Il dit ça aussi. C'est une période où après l'immense chagrin, il fait l'éloge de la joie en toutes circonstances et de je ne comprends pas tout ce poème.
Moi non plus, pour tout vous dire, et ça me rassure énormément que vous avouiez ne pas avoir tout
mais
compris.
Mais j'aime cette exhortation à avancer désarmée.
Oui.
Et je trouve qu'il y a, en même temps, je vous ai dit en début d'émission que si j'avais une lance et si j'étais Don Quichotte, j'irais désinguer Poutine, voyez.
Donc armé, vous n'iriez pas désarmé devant Poutine.
Nous sommes contradictoires, chacun énormément.
Oui, mais c'est bien de le savoir et de le reconnaître. Là, je dis une banalité qui a l'air terrible, mais vous savez, c'est pas tant une banalité aujourd'hui où on essaye de paraître lisse en permanence.
Oui, bien sûr.
Et très angéliste.
Et bon, et bien pensant, et humaniste, et le reste.
Et je pense que c'est parce qu'on cache la monstruosité qu'elle se développe encore plus.
Peut-être aussi.
J'ai une question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce dont on parle, mais plusieurs de vos livres ont été adaptés à la scène.
Oui.
Vous aimez cet exercice ?
J'aime pas m'entendre.
Ah.
J'aime pas m'entendre parce que je suis à l'affût, enfin entendre le texte, parce que je suis à l'affût de ses faiblesses.
Est-ce que quand vous écrivez, vous ne lisez jamais à haute voix comme Flaubert ?
Tout le temps dans ma tête, bien sûr, pour la musique, pour le rythme, pour le souffle, bien sûr, tout le temps. Mais c'est autre chose que de l'entendre dit par l'autre, votre texte. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué de s'oublier en tant qu'auteur.
Même dit par un autre, ça vous gêne ?
Mais, c'est-à-dire que je me dis, mais là, j'ai fait une répétition que j'aurais pas dû faire, etc. Bref, toute l'insatisfaction se réveille à ce moment-là.
Lydie Salver, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez eu une réponse aussi jolie qu'énigmatique, me rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se rejoindre ? Et le peut-on ?
C'est sans doute une illusion, mais peut-être d'en finir avec le divorce entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre nos rêves et leur accomplissement, entre le livre rêvé et le livre accompli, peut-être un jour, mais je n'y crois pas en même temps. Je crois qu'il est impossible d'être adéquat. Que le livre qu'on écrit soit adéquat à celui qu'on a rêvé et qu'il coïncide. Je pense que c'est impossible. Quelque chose me dit que c'est impossible.
Justement, on va parler de ratage, mais d'abord une petite introduction musicale.
Pour faire une mayonnaise, faut avoir le coude à l'aise, faut pas s'énerver. Pour faire une mayonnaise, faut pas rester sur sa chaise, vaut mieux se lever. Il faut séparer le jaune s'il reste du blanc, il faut ne pas le mélanger. On le sale avec justesse, quelques minutes on le laisse bien se reposer.
La mayonnaise d'Anne Sylvestre pour illustrer ce que vous avez raté le plus récemment, Lydie Salver, la sauce en question. Et je vous cite plus sérieusement le sentiment toujours que le livre fini est très en dessous du livre rêvé, ça vous venez de l'évoquer. Oui. Avez-vous déjà été satisfaite de ce que vous aviez écrit ?
Rarement. Alors j'en suis pas à vouloir mourir comme Virginia Woolf, qui chaque fois qu'elle terminait un livre souffrait vraiment... le calvaire de ne pas avoir réussi le livre rêvé, justement. Mais c'est difficile d'être satisfait. C'est difficile, je sais pas.
Mais ce métier, quand on le prend au sérieux, semble terriblement ingrat. Plus j'entends des écrivains...
Mais non ! Moi, j'ai un immense plaisir à écrire. J'écris dans mon lit, voluptueusement.
À la main ?
Non, j'ai l'ordinateur sur les genoux. J'ai mes oreillers dans le dos. Il fait bon. Oh non, c'est tout sauf une besogne. Non, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la volupté. Mais vraiment, faut pas toujours. Il y a les périodes de sécheresse, d'inquiétude bien sûr, la peur de ne pas finir, de rater. Mais non, je voudrais pas qu'on que les auditeurs gardent l'idée que l'écriture, ça fait mal, c'est un tourment, c'est un calvaire. Ça peut évidemment faire mal. Mais il y a beaucoup, beaucoup de douceur et de volupté, me semble-t-il, aussi.
Chez vous, la colère est souvent motrice pour l'écriture.
Oui, je reconnais. Et d'ailleurs, j'aime les auteurs colériques.
Comme qui, par exemple ?
Thomas Bernhard,
ah oui.
Colérique.
Oui.
Elfriede Jelinek, colérique. Céline aussi, colérique. Bernanos, grand colérique.
Je les imagine tous prendre du space-fond ou des choses pour les remonter acides.
Mais il ne faut pas s'installer dans la colère, c'est le risque. Il ne faut pas qu'elle devienne confortable, la colère. C'est comme le ressentiment. Il faut qu'elle soit juste motrice. C'est étonnant, parce que je n'ai pas... à me forcer, quand j'écris, à ranimer cette colère, qui est une colère d'enfance, qui est une colère de l'injustice que j'ai ressentie dans l'enfance et qui est toujours là, et qui restera là, je crois. Mais je sais qu'il ne faut pas que je l'entretienne plus que ça.
À la fin de l'émission, je demande aux invités de prendre un engagement, et vous avez eu la réponse une réponse d'une honnêteté qui vous ressemble. Lydie Salver, vous avez dit « M'engager à être plus ci, moins ça, bref, meilleur que je ne suis, mais ce serait du pipeau, donc je m'abstiens pour le moment. »
Mais oui, je peux promettre là d'être plus gentille en sortant, plus généreuse, plus charitable, plus hospitalière, etc. Mais non, je veux pas faire comme les politiciens justement. J'aurais horreur de ça. Des belles déclarations, non, sans lendemain, non. Même pour vous faire plaisir, pourtant j'aimerais vous faire plaisir.
Je vous donne mon RIB et on en reparle. Lydie Salver, on a le temps pour deux petits bonus. Bonus sur le ressentiment, vous vouliez ajouter quelque chose. Et puis la Boétie pour terminer.
Oh oui.
Alors le ressentiment d'abord. Non,
le ressentiment, je voulais dire qu'il est parfois tel chez certains que leur monde s'organise autour du ressentiment. Que tout vient rejoindre ce ressentiment. Qu'ils interprètent la société et les autres à travers ce ressentiment. Et je trouve ça très, très, très dangereux. Ça devient un mode d'être. Vous voyez? Et je trouve ça dangereux et politiquement dangereux.
D'ailleurs, alors, je suis désolée, je m'étais promis de ne pas reparler de ce livre, mais on va faire comme si vous ne l'aviez pas écrit. Tout homme est une nuit. Parle énormément de ressentiments et de gens qui voient le monde entier à travers leurs ressentiments. Oui. Mais je ne vous demande pas d'intervenir puisque vous ne connaissez pas ce livre, Kitty Salver. Et alors, le discours de la servitude volontaire de la Boétie.
Mais oui, parce que je l'ai relu récemment et j'ai été, je l'avais déjà été éblouie par ce jeune homme qui a 18 ans, en 1653, je crois, qui est témoin d'une répression horrible contre un soulèvement, je ne sais lequel, et qui va écrire le livre sur l'aliénation, sur la domination, sur les liens dominants-dominés, mais d'une intelligence, d'une subtilité, d'une radicalité exceptionnelle. Et j'invite tout le monde à relire La Boétie. Il s'appelle La Boétie, Étienne de La Boétie. C'est magnifique. Et il dit, entre autres, comment les tyrans... quel est le secret de la domination? Et il dit, c'est de donner des miettes aux courtisans pour qu'eux-mêmes aient un petit pouvoir, qu'ils exercent sur d'autres qui auront un petit pouvoir, qu'ils les exerceront sur d'autres qui auront un petit pouvoir, etc. Et puis il y a le peuple qui lui est sans pouvoir. Et le peuple, comment l'avachir, le rendre obéissant et servile en lui donnant des jeux, dit-il.
Des divertissements.
Et du divertissement. Et or, il se dit, le tyran ne tient que parce que le peuple le désire. Il suffirait que le peuple n'obéisse plus pour que le tyran ne soit rien. Le peuple, ce sont les mains, les bras et la force du tyran, dit-il. Et il s'interroge de pourquoi cette servitude presque désirée, etc. C'est remarquable. Je voulais en dire deux mots aujourd'hui auprès de vous.
Eh bien, c'est fait. Nous mettrons l'ajout sur le site internet
mille
de
merci,
l'émission.
Mille merci.
Merci beaucoup à vous, Lydie Salver.
Merci infiniment.
Vos trois derniers livres sont « Marcher jusqu'au soir » paru chez Stock, « Rêver debout » disponible au Seuil et « Famille » chez Tristram. Je tiens à signaler aussi le festival Hors Limite, festival littéraire en Seine-Saint-Denis avec une formidable programmation qui a lieu jusqu'au 23 avril et dans lequel, hélas, vous êtes intervenu hier, mais il y a plein de belles choses à découvrir. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi frétillant qu'un bouchon voguant sur le geyser créé par un mélange de mentos et de boissons gazeuses. Ne tentez pas l'expérience chez vous, mais vous pouvez voir à quoi ça ressemble en tapant mentos éruption. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.